Aujourd'hui dans Affaires Sensibles, une identité à géométrie variable. Il est Picasso, marinière, béret, tauromachie. Il est Degas, presque aveugle, peignant les petits rats de l'opéra. Il est Chagall, immigré russe, maître des couleurs et grand rêveur. Il est Dali, également surréaliste, moustachu, excentrique. Il, c'est Guy Ribbe. Prolifique et génial, ce faussaire a inondé le marché de l'art de ses œuvres pendant plus de 20 ans. On parle de 1000 dessins et tableaux produits entre le milieu des années 80 et l'année 2005, aux dépens de collectionneurs privés, de galéristes, et même, oui, même de musées. Arrêté, condamné, Guy Ribbe est l'un des rares faussaires à être sorti de l'ombre. Feutre à la Maigret, pipe à la bouche et bagou canaille, cet homme est un personnage de roman. Le roman d'un voyou devenu artiste ou d'un artiste devenu voyou, insondable et multiple. Débats font lyonnais au Salon d'Art, des bordels d'après-guerre au Palace Parisien, retour sur un parcours hors du commun où les bandits ne sont pas toujours ce qu'on croit. Notre invité aujourd'hui, Gilles Perrault, expert en objets d'art, agréé par la Cour de cassation depuis 1995 et par la Cour d'appel de Versailles depuis 1987. Il est spécialisé dans le dépistage des contrefaçons. Il a exercé son expertise lors du procès de Guy Ribbe en 2010. Affaires Sensibles, une émission de France Inter en partenariat avec l'INA, préparée aujourd'hui par Jeanne Mayer, coordination Christophe Barrère, réalisation Fabrice Laigle.
Fabrice Drouel, Affaires Sensibles. Sur France Inter.
Tout commence au Cheval Blanc, un hôtel de passe de Rouen. C'est là que naît Guy, en 1948. Sa mère, Madame Jeanne, mère maqurelle et voyante, est d'origine gitane espagnole. Son père, qui possède également un cinéma, est un tyran domestique des plus impressionnants. Avec ses deux maîtres de violence alcoolisés, Jean-Baptiste Ribbe terrorise ses enfants et sa femme. Le petit Guy est surnommé Reste de Giclette et sa mère, Conchita. À 7 ans, Guy Ribbe est envoyé dans un internat jésuite de l'assistance publique. À 13 ans, il vit dans les rues de Lyon. Sa mère, qui travaille désormais sur le marché de la Croix-Rousse, le nourrit en secret. À la vieille taverne de Gadagne, dans les rues pavées du Vieux-Lyon, Guy fait la connaissance d'Armand Bouillet, restaurateur et receleur. Et la taverne devient son refuge. Bouillet, lui, son protecteur. La nuit, Guy dort sur les banquettes du bar. Le jour, il apprend, au contact de son nouvel ami, à reconnaître les beaux objets, à en chiffrer la valeur. À les voler aussi. Il commet de petits cambriolages pour le compte du receleur, qui lui présente ses compères, Ned Beu, Jeannot les Belles Pompes, Bernard Guittard, Michel Moquette. Ces voyous d'un autre temps, poétiquement marginaux, inspirent beaucoup Guy. La vie, comprend-il, ne vaut que si elle est vécue intensément et librement. S'il flirte très étroitement avec des hors-la-loi, le jeune homme est retenu par sa passion, un talent inattendu que ses amis voyous et bohèmes l'encouragent à exploiter, le dessin. Car Guy dessine partout, tout le temps. Il croque les yeux fatigués des prostituées de la taverne de Gadagne, les trognes tordues des garçons des rues, les profils augustes des truands. Mémé Guérini, un ponte du milieu corse à Lyon, lui commande un portrait de sa mère avant de lui confier la décoration de ses cabarets. Madame Jeanne, la mère de Guy, le sent, elle aussi, son fils est doué. Elle lui déniche une place d'apprenti dessinateur dans une soirée lyonnaise réputée chez Paul Spey. Au contact du patron, sévère mais juste, Guy Ribbe apprend à fumer la pipe, mais surtout à manier les couleurs et les motifs. Il s'agit de reproduire les tracés imaginés par le maître dans différents coloris, afin que le client puisse choisir sa gamme préférée. C'est ainsi, alors qu'il ne connaît encore rien à l'art, que Guy Ribbe commence à se former à la copie. Au milieu de l'atelier où il passe secrètement ses nuits, le jeune homme est comblé. En douce, il utilise le matériel du maître, pinceau, papier, couleur, pour réaliser de petites aquarelles qu'il vend sur les marchés. Une nuit, Paul Spey le surprend. Oh, il ne le chasse pas, mais prophétise « Tu finiras en prison, toi !» Sa formation achevée, Guy Ribbe, la vingtaine, s'échappe en Provence où il développe une fructueuse activité d'aquarelliste pour le compte d'un petit galériste. L'ancien enfant des rues veut gagner sa vie. Alors, il peint à la chaîne, à prix réduit, selon une technique industrielle qu'il a lui-même imaginée.
J'avais mis au point des paysages de Sologne et puis des marines. Bon, j'ai jamais mis les pieds en Sologne. C'est ça qui était le plus drôle. Et ça se vendait comme du petit pain. Alors les éditeurs, les marchands sont mis à m'en commander 300 par mois, 400. J'étais une vraie machine. je mettais exactement moins de 4 minutes pour faire une aquarelle. Je faisais le fond. Quand elles étaient humides, je tamponnais les herbes. Après, je montais les arbres. Et après, je retamponnais. Terminé, signé, emballé.
Guy Ribe développe ainsi des qualités précieuses. Rapidité d'exécution, sens des affaires, maîtrise technique, imagination. Mais il souffre de l'étiquette commerciale qui lui colle la peau. Après quelques années, il finit par monter à Paris où il se passionne pour l'art moderne, la bohème de Montmartre, Picasso. L'aquarelliste de bas étage, ex-petit voyou, rêve de grand maître, de reconnaissance, d'émotion, en un mot, d'art, le grand art. Ce qu'il ne sait pas encore, c'est qu'il va effectivement entrer dans la cour des grands, mais par une porte insoupçonnée. Les rencontres qu'il va faire et les amitiés qu'il va nouer le conduiront vers l'illégalité. Nous sommes alors en 1984. Guy Ribe a 36 ans. Il s'apprête à devenir faussaire. La rencontre qui va changer la vie de Guy Ribe, c'est celle d'un homme qu'il appelle son maître illusionniste, Henri Guillard. Fils d'un imprimeur d'art renommé, spécialiste de la lithographie et de la gravure, il est propriétaire d'une imprimerie dans le 14e arrondissement de Paris. Henri Guillard a grandi au milieu des plus grands, Picasso en tête. Il appartient à une élite culturelle qui fascine Guy Ribe. Un jour, Guillard fait une révélation à son protégé. Il possède une seconde imprimerie dans laquelle il produit clandestinement des surtirages de lithographie de Dali qu'il vend comme des vrais. Guy Ribe, qui a forgé sa morale au contact des petits et grands bandits lyonnais, ne voit pas le mal, il a même une révélation. Et si lui aussi s'exerçait en imitant les maîtres ? Le peintre fait alors une première tentative, une aquarelle de Chagall. Il y prend beaucoup de plaisir, pensez donc. Rivaliser avec un grand maître lui procure des sensations grisantes. Henri Guillard, l'imprimeur d'art, perçoit immédiatement le potentiel de son ami. Mais l'aquarelle est imparfaite, les associations de couleurs et la composition sont mauvaises. Surtout, il manque ce supplément d'âme qui transparaît chez Chagall. Henri Guillard encourage Guy Ribe, le conseille et l'abreuve d'anecdotes sur l'histoire de l'art, la vie des peintres, leurs méthodes de travail. Des secrets qui nourrissent le peintre et lui permettent peu à peu d'entrer dans la peau des génies. Tandis que Guy Ribe progresse, Henri Guillard commence à lui commander des toiles pour le compte d'un certain Léon Amiel, un éditeur de livres d'art. Un Picasso par-ci, un Matisse par-là, en tout, Guy Ribe en peint 30. En réalité, comme Ribe finit par l'apprendre, Guillard et Amiel ont décidé de former. Les tableaux qu'il lui commande ne sont pas destinés au mur de l'appartement de Léon Amiel, non. Pour le peintre, ces 30 toiles constituent un apprentissage pratique. Henri Guillard et Léon Amiel veulent que Guy Ribe s'exerce et peaufine sa technique afin de devenir un faussaire insaisissable. Cet enseignement porte ses fruits et Guy Ribe devient un vrai professionnel du faux. Pendant 10 ans, le peintre, l'imprimeur et l'éditeur travaillent ensemble. Léon Amiel, reconnu par ses pairs comme un professionnel respectable, ne laisse passer que les meilleures réalisations de Ribe. S'il juge qu'un dessin est fragile, il le déchire, comme le raconte Guy Ribe sur France 2.
Les gens pour qui je travaillais, d'imprimeurs et d'autres, prenaient ça très au sérieux. Et ils se sont mis à les vendre, et à les faire expertiser. Et l'argent rentrait, mais gros argent. C'est plus des aquarelles à 10 balles. Ils me commandaient par exemple un dessin de Picasso, ils allaient voir l'expert de Picasso. Ils disaient oui, c'était oui. Ils disaient non, on déchirait. C'est tout simple. C'était imparable. C'est comme un braquage à l'italienne. Un beau braquage, s'il n'y a pas de mort, s'il n'y a pas de témoin, s'il n'y a rien, tout en douceur, bravo.
Les œuvres qui entrent dans le circuit via de grands marchands et d'honnêtes experts sont indécelables. Les faux deviennent donc des vrais. Car à force de travail, Guy Ribe a mis au point une méthode de travail irréprochable. Il s'agit d'abord de penser comme le peintre qui l'imite. Pour cela, Ribe s'informe, l'entourage de l'artiste, son domicile, ses voyages, ses habitudes, chaque détail est bon à prendre. Quand il s'attelle à Chagall, il prend l'habitude de se faire livrer chaque matin, comme le peintre le faisait, un bouquet de fleurs qui inspirera sa journée. Et pour que l'œuvre soit crédible, le faussaire ne doit pas simplement imiter son modèle, il doit être ce modèle. D'ailleurs, les faux de Grib, ces balourdes, comme il dit, ne sont jamais des copies, mais des pastiches. Autrement dit, à la manière d'eux. Sans rien inventer, le faussaire synthétise plusieurs œuvres d'un même peintre pour créer une nouvelle composition. Pour une tauromachie à la manière de Picasso, il associe le taureau d'un dessin avec la reine d'un autre et les personnages d'une troisième aquarelle. C'est pourquoi il privilégie les peintres qui produisent en série, comme Picasso justement, qui pouvait parfois réaliser 40 versions d'un même dessin. Guy Rib se contente, lui, de réaliser le 41e. Le faussaire use ses pinceaux jusqu'à saisir l'essence, l'âme des peintres qu'il admire. Il apprend aussi à rattraper le temps, à donner le sentiment des années passées. Aussi surprenant que cela puisse paraître, lorsqu'un tableau est terminé, Guy Rib efface tout, puis il recommence une fois, deux fois, 10 parfois. Les couleurs, au fil des passages, finissent par imprégner la toile, comme dans un tableau ancien. Plutôt que de vieillir les supports, comme certains faussaires le font en trempant le papier dans du thé, Guy Rib chine, pinceau, toile, papier, pigments, huile, tout son matériel est d'époque. Et touche finale et primordiale de la tromperie, c'est l'encadrement, comme il l'explique au micro de France Inter.
Mais ce que j'appelais moi le père Lambapin, c'était que j'avais un encadreur qui est mort maintenant, qui était un magicien du vieillissement. Il était capable de me remettre un pot dans un cadre des années 30, avec la poussière, les clous, tout, et le fermer.
Poussière d'origine, bien sûr, des années 30.
Mais oui, il trouvait des cadres avec la poussière et tout. Et parce qu'un expert, avant de démonter le tableau, il regarde il a un premier coup d'œil, ce que j'appelle moi l'émotion. Et déjà, c'est un bon point. Après, il étudie le cadre s'il était ouvert ou fermé. S'il n'a pas été ouvert, c'est aussi encore un bon point. Souvent, si vous amenez un expert un tableau encadré, bien vieilli et tout, avec, dans son jus, c'est beaucoup plus favorable que démonté et sorti du cadre.
Et les experts s'y laissent prendre. Un jour, l'un d'eux fait appel à Lafitte Chagall pour certifier une toile. Ce qu'elle confirme, oui monsieur, je l'ai vu le peindre il y a 50 ans. Ah bon ? Mais absolument. Ida Chagall croit vraiment à ce qu'elle dit. Pourtant, et c'est ce qui est fascinant, Guy Rib a posé la touche finale 2 jours auparavant. Les œuvres de maître qu'il pastiche sont revendues des milliers, voire des millions. Pourtant, le faussaire ne touche qu'une petite partie du pactole, quelques dizaines de milliers de francs. Mais Guy Rib est heureux. Il gagne sa vie en travaillant au plus proche des artistes qu'il admire et il accède à un monde qu'il rêvait justement d'intégrer. Quand il ne peint pas, esprit libre et panier percé, il mène la grande vie, restaurant luxueux, casino, voyage, rien n'est trop beau pour le petit vagabond de la Croix-Rousse. Guy Rib fréquente la haute société, les palaces, les femmes. Le peintre n'est pas toujours reconnu pour ses œuvres personnelles, mais peu lui importe. Lui, il prend plaisir à tutoyer ses idoles et à défier les règles, celles de l'art, de la morale et de la loi.
You call me up, but 'cause you know I'll be there when I see your true colors shining through. I see your true colors, and that's why I love you. So don't be afraid to let them show your true colors, true colors, true colors are beautiful.
Au milieu des années 90, Henri Guillard et Léon Amiel meurent, l'un après l'autre. Pour Guérib, c'est la fin d'une époque. D'autant que les nouveaux marchands qu'il rencontre sont moins bien intentionnés que ses précédents collaborateurs. Parmi eux, Pascal Robalia, un galériste reconnu qui a pignon sur rue à Paris. Riche, éduqué, apparemment passionné, l'homme inspire le respect. Pourtant, Guérib va vite s'en rendre compte. L'attrait du gain aveugle Robalia et l'éloigne de ce qui a attiré le faussaire en premier lieu, la création et l'art. Un peu gêné de parler d'argent, il raconte tout de même à Yvon Croisier sur France Culture.
Vous avez gagné beaucoup d'argent avec, vos faux.
Comment? Oh, je sais plus. J'ai vécu, quoi. Non, non. Bah, c'était assez fascinant, quand même, de... On se retrouvait avec de l'argent sur une nuit de travail. On a toujours eu l'impression de puissance. On se dit, tiens, j'ai pas perdu mon temps, on existe. Mais je pense pas que si on pense comme ça, on peut pas être bon. D'ailleurs, ce que je détestais, c'est quand ils arrivaient à l'improviste pour me dire, il me faut ça pour demain matin. Ça, je pouvais pas. Parce que moi, quand j'avais des commandes, deux jours avant, immobile. Il fallait que je sois prêt. Et j'attaquais un matin à l'aube. J'étais.
Et le voilà dans les filets du profit, du rendement et du fric. Les commandes se multiplient et pour y répondre, Guérib doit peindre vite, de plus en plus vite. Pour lui, il ne s'agit plus de jeu et d'émotion, mais d'argent facile. Alors l'exaltation fait place à l'habitude et l'art, à l'industrie. 15 minutes pour un dessin inachevé de Matisse, une nuit pour une peinture de Chagall. Le faussaire maîtrise ses techniques, mais le fou ne tolère pas la précipitation et la qualité des productions, bien sûr, s'en ressent. Plutôt que de soumettre des dessins bâclés aux experts, avec le soutien du savoir-faire graphologique de Guérib, Robalia fabrique de fausses expertises. Il se fournit en papier en tête vierge et remplit des certificats. Les vrais experts, eux, ne sont pas toujours très regardants, d'autant qu'ils sont souvent marchands eux-mêmes. Alors, admettre qu'il y a des faux qui circulent, c'est risquer d'en posséder soi-même. Dans le doute, ils préfèrent parfois laisser passer ce qu'ils savent potentiellement factice. Pascal Romalia, le galériste véreux, a mis en place un système imparable pour flouer les clients sans que ses combines ne soient mises au jour. Il privilégie les petits couillons, comme il les appelle Guérib, des collectionneurs modestes de petites villes qui veulent passer dans la cour des grands. Pascal Robalia traque les personnalités fragiles, les décès, les divorces. Il n'hésite pas à se montrer insistant et ne s'octroie que des marges réduites pour convaincre les plus réticents. Avec ses petits couillons, le marchand opère en grand manipulateur. Première étape, il les invite chez lui, au Vésiné, banlieue chic de l'Ouest parisien. C'est ce qu'explique cet homme, interviewé anonymement par France 2.
Monsieur Robaglia avait d'évidence pignon sur rue. Dans les salons, en principe, il y a des experts qui vérifient la qualité des œuvres. Il allait dans les meilleurs salons parisiens. Il m'a invité assez vite à aller chez lui. La villa était, il faut dire, magnifique. 400-500 mètres carrés, je ne sais pas exactement. De très grandes pièces, très bien meublées, belles moquettes, belles tapisseries. Tout ça étant fait par des décorateurs. C'était magnifique. Donc, l'écran était là pour présenter de belles œuvres. Et il y avait de belles œuvres.
Convaincu de sa respectabilité, les acheteurs se fient à lui tant pour des conseils que des achats. D'ailleurs, Pascal Robalia commence souvent par leur vendre une première œuvre authentique. Parmi ses acheteurs abusés, Christian Russell, d'origine suisse, il vient d'hériter de la fortune de son père, horloger de haute précision. Retraité, fraîchement divorcé et amateur de peinture, Russell rêve d'une belle signature. Il est lunaire, Russell, passionné, un peu naïf. Pour Pascal Robalia, c'est le pigeon idéal. Christian Russell, tout commence par un appel. Christine Lefébure, une charmante et récente veuve, lui propose un Renoir qu'elle vend pour subvenir à ses besoins. Séduit par la veuve et par le tableau, Russell contacte Robalia, qu'il a connu en fréquentant les salons d'art parisiens. Le galériste lui propose de faire expertiser le tableau. En attendant la confirmation d'authentification, Russell achète d'autres œuvres à Madame Lefébure, qu'il trouve si jolie, si aimable. Mais le premier Renoir, il l'apprend bientôt, n'est pas un Renoir. Russell a été berné. La veuve, fausse comme les tableaux, disparaît dans la nature. Quant aux autres œuvres, ce sont des faux, elles aussi. Le vrai escroc, en revanche, c'est Robalia, qui a conseillé Christian Russell et payé Christine Lefébure pour jouer l'intermédiaire et vendre ses propres tableaux achetés à Guérib. Guérib, automate et voyou de la haute société, s'exécute pour l'argent et parce que c'est tout ce qu'il sait faire. Mais il a perdu la magie, il s'est perdu lui-même dans ses multiples personnalités picturales, le cubisme, le surréalisme, l'impressionnisme. Parce qu'il a le sentiment de se faire rouler par les marchands pour qui il travaille, Robalia en tête, le faussaire prend alors une décision qui va tout chambouler. Vendre désormais à son compte, sans intermédiaire, pour gagner plus. C'est le faux pas de trop. Car la police est déjà sur ses traces, alertée par des plaintes un peu partout en France. Depuis quelques semaines, Guérib est sur écoute et sous surveillance. Fin 2004, alors qu'il s'apprête à mener à bien sa première transaction indépendante, la chance finit par le lâcher brutalement.
Michel Fournier, vous êtes chef de la brigade centrale pour la répression des contrefaçons industrielles et artistiques. Comment avez-vous été mis sur la piste de Guérib ?
Bon, d'une part, on remarquait que à travers la France, il y avait plusieurs enquêtes où l'on trouvait des faux tableaux de différents artistes. Et puis, un beau jour, à la fin de l'année 2004, le petit déclencheur qui arrive parfois dans les services de police, une personne qui veut nous confier un renseignement.
Ça veut dire que Guérib a été dénoncé ?
Ça veut dire que son activité, oui, on va pas tourner autour du pot, il a été dénoncé comme pouvant se livrer à des activités de faussaire.
Grâce à cette dénonciation, la Brigade Centrale pour la Répression des Contrefaçons Industrielles et Artistiques, la BCRCIA, va enfin obtenir ce qu'elle attend. Un flagrant délit. Le 5 janvier 2005, le commandant Martin Perrolin et son équipe filent Guérib. Ils le savent, grâce à leur informateur, aujourd'hui une transaction va avoir lieu. La filature commence quand un homme vient chercher Guérib en bas de chez lui en voiture. Les deux hommes se dirigent vers un pavillon banlieue parisienne où ils récupèrent des colis. Ils vont ensuite déjeuner dans une brasserie où le faussaire a ses habitudes, près de son atelier de Saint-Mandé. Après le repas, ils se séparent sur une poignée de main. Tandis que Guérib entre chez un opticien où il prend des renseignements sur des loupes grossissantes, son ami est arrêté. Dans le coffre de sa voiture, on trouve 9 dessins contrefaits, Picasso, Fernand Léger, Chagall, Dali, Matisse, Vlaminck et 6 livres d'art dédicacés. Les policiers en ont maintenant la preuve. Le faussaire vient de procéder à une vente. Alors que Guérib achète une loupe, un couple de clients entre dans la boutique. Faux client, vrai poulet. Et c'est au tour de Guérib d'être embarqué, sans violence ni menottes, dans une berline noire banalisée. Pour le faussaire qui rêvait d'être artiste, eh bien c'est un soulagement, figurez-vous, comme il le confie à Yvon Croisier sur France Culture.
Qu'est-ce que vous avez ressenti au moment de votre arrestation ?
Oh ben j'ai dit ça s'arrête tout. Je suis un peu comme un criminel, vous savez. Je leur ai dit vous me soulagez, j'en avais marre. C'est vrai, j'en avais marre de travailler avec ces gens-là. Parce qu'il y avait plus ce côté amusant et artistique. Eux c'était vraiment de l'escroquerie. C'est pas ce qui m'attirait, moi. Non, j'en avais marre. Je suis retombé rib. Parce que quand vous faites des faux pendant des années, vous ne savez plus qui vous êtes.
Au terme de ces 3 jours d'interrogatoire, Guérib signe un accord avec la police. Il accepte de reconnaître ses faux parmi les tableaux répertoriés dans les dossiers du commandant Martin Perrolin. En échange, il n'ira pas en détention avant la tenue de son procès. En revanche, et là il y tient, il ne donnera aucun nom, fidèle aux règles qu'il a apprises dans sa jeunesse au sein du milieu lyonnais. L'instruction s'étale sur 5 ans, sans cesse relancée par l'arrivée de nouveaux tableaux. La justice finit par mettre fin à l'enquête devant le puits sans fond qui se profile, tant les faux sont nombreux, parfois anciens et parfaitement intégrés au marché de l'art. S'il est jugé pour 130 œuvres, Guérib lui-même estime qu'il en existe sans doute plus de 1000 dans des collections privées et même dans des musées, mais oui. Certaines œuvres ont changé de main, pris de la valeur, perdu à jamais dans les limbes du marché de l'art et de ses secrets. Le premier jour du procès, le 5 juillet 2010, les tableaux de Guérib sont exposés dans la salle d'audience. Avocats, jurés et experts déambulent entre les rangées de toiles comme un vernissage.
Arrive le jour du procès, la présidente avait fait ressortir, déceler les tableaux et vous arrivez quasiment comme dans un musée, dans cette salle d'audience. La première chose que tout le monde a faite, c'est de s'approcher du bureau du président et d'aller regarder au plus près, de la prendre, de la soulever. Guy était assez ému d'en voir quelques-unes et des souvenirs comme ça, c'est pas tous les jours qu'un procès commence de cette manière-là.
Et finalement, c'est la première fois que le talent de Guérib est reconnu publiquement. Lors du procès, Gilles Perrault, expert, déclare n'avoir jamais vu un faussaire avec une telle palette d'artistes. Picasso l'embaucherait, ajoute-t-il. À force de clichés infrarouges, de rayons X et d'analyses de pigments, le scientifique a certifié l'inauthenticité des toiles mises en cause dans le dossier. Même si certaines œuvres lui semblent grossières, comme ces pages de livres crayonnées, d'autres vont très loin dans la confusion. Les chefs d'accusation qui pèsent sur Guérib sont sérieux et plusieurs millions d'euros sont en jeu. Rib et 11 autres prévenus, dont le galériste Pascal Robalia, comparaissent pour débit de contrefaçon en bande organisée, recel de contrefaçon, imitation de signature d'œuvres artistiques. Le préjudice, explique le procureur, concerne d'abord les victimes qui ont acheté très cher des faux, mais aussi les peintres pastichés dont les droits sont violés. On parle également de troubles à l'ordre public et de la dévalorisation du marché de l'art sali par de telles pratiques. L'avocat du faussaire, Antonin Lévy, insiste sur le fait que son client agit pour le compte de plus gros poissons, des marchands véreux qui ne lui destinaient que des sommes minimes. Si Guérib ne s'en pense pas le plus coupable, il ne joue pas non plus à la victime. Et il assume ses actes, au micro de Dorothée Barba, par exemple.
Donc ce sont des tableaux qui pouvaient se vendre à plusieurs millions d'euros. Combien est-ce qu'on vous payait, vous, Guérib ?
On me payait par rapport à la revente. Disons de 1 à 100.
J'ai lu par exemple quelque part qu'un tableau de Chagall, on vous le payait 10 000 euros, alors que derrière il pouvait être revendu à plus de 5 millions d'euros.
Oui, le ratio est... j'ai eu des choses de Picasso qui ont fait plusieurs centaines de millions, et j'étais payé un millième.
Vous avez l'impression d'être aussi une victime de ce
pas
système
du tout.
Pas du tout.
Pourquoi ? Parce qu'il faut bien que tout le monde gagne sa vie.
À la mesure de ses prétentions salariales.
Et vous savez, quand vous faites un tableau, il y a beaucoup de gens qui gagnent leur vie dessus. Il y a l'encadreur, il y a les courtiers, il y a beaucoup de gens qui travaillent, il y a l'État. Tout le monde gagne.
Cinq jours après le début du procès, le 9 juillet 2010, le tribunal correctionnel de Créteil condamne Guérib à 4 ans de prison, dont 3 avec sursis. Pascal Robalia, qui est à l'origine du trafic, écope de 5 ans, dont 18 mois avec sursis. Guérib et son avocat se souviennent d'un drôle de procès où soufflait un vent de malversation. Pascal Robalia et les autres marchands condamnés n'ont jamais versé les 900 000 euros qu'ils devaient rembourser aux parties civiles. Guérib, lui, sort ruiné de ce procès. Ces tableaux ont été saisis et traînent sous scellés dans les armoires du tribunal de greffe. Un trésor en toc destiné à être détruit. Après 1 an de détention, l'ancien faussaire doit donc repartir de zéro. Celui qui, pendant plus de 20 ans, s'est glissé dans la peau des plus grands, Matisse, Renoir, Modigliani, doit désormais apprendre à regarder l'art avec ses propres yeux. Et alors, Guérib redevient Guérib. Dans sa chambre de bonne, au 6e étage d'un immeuble parisien, le peintre peint. Et pour la première fois, il signe ses œuvres. Mais son passé dehors, la loi lui colle à la peau. Non seulement Ribe peine à trouver sa patte, lui qui a toujours imité les autres, mais il reste pour beaucoup ce qu'il a toujours été, un faussaire. Des marchands le contactent, dans l'espoir de le faire replonger, tandis que des amateurs d'art lui commandent des copies et des toiles à la manière de signer de son nom. Guy Ribe s'exécute pour gagner sa vie. À défaut de se faire connaître par sa peinture, Guy Ribe se sert de sa notoriété pour faire parler ses talents. Son histoire le mène au cinéma, lui que les journalistes comparent à un personnage d'Audiard. Pour Le Renoir, de Gilles Bourdos en 2013, il coache Michel Blanc et réalise les 280 dessins qui apparaissent dans le film. John Travolta, sur le point de commencer le tournage de The Forger, demande à le rencontrer pour se mettre dans la peau de son personnage, un faussaire. En 2015, Guy Ribe écrit une autobiographie, Autoportrait d'un faussaire. L'année suivante, il est le héros d'un documentaire de Jean-Luc Léon, Un vrai faussaire. Devant la caméra du cinéaste, il révèle ses combines passées, ses techniques et même les noms de galéristes, de marchands et de musées qui ont dû être masqués à la diffusion. L'écriture et le cinéma lui permettent de partager son histoire avec une humilité un peu orgueilleuse, mais aussi de régler ses comptes. Avec nos conceptions du vrai et du faux, du bien et du mal, d'abord. Avec le monde de l'art, ensuite, où l'art, paradoxalement, n'a plus sa place.
Nouveau record battu pour un Picasso au printemps dernier, 179 millions de dollars, ça fait 160 millions d'euros pour les femmes d'Alger. Est-ce que les prix vont continuer à flamber pendant longtemps?
Pour Picasso?
Oui, par exemple.
Bien sûr.
On parle d'une bulle, on dit qu'un jour ça va s'effondrer.
De toute façon, c'est toujours les mêmes, hein. Picasso, Matisse, toute la clique. Ça monte.
Et ça ne va jamais redescendre, à votre avis?
Non, parce que c'est des placements d'argent. Le monde de l'art, c'est un placement d'argent. Il y a beaucoup de fumisterie, beaucoup, surtout, blanchiment d'argent avec l'industrie.
Ce que vous dites, en tout cas, c'est que c'est un investissement financier avant tout. On ne s'intéresse pas, finalement,
complètement, on achète un
au travail de l'artiste.
On achète un certificat d'authenticité. Le tableau, on le fout dans un coffre, c'est un placement.
Ce qui devrait importer aux amateurs d'art, ce qui importe à Guérib, c'est l'émotion. Le faussaire repenti dénonce un marché de dupes où les passionnés sont avant tout des clients, où l'on achète un certificat et un grand nom avant d'acheter une œuvre. Investissement, spéculation, blanchiment, Guérib regrette un système où l'art est devenu une marchandise porteuse de contradictions, d'hypocrisie et d'excès. « 30% de faux dans les collections privées et publiques, c'est le chiffre stupéfiant qu'avancent certains experts. Parmi ces faux, de vraies belles toiles, émouvantes, vibrantes. Des œuvres d'art réalisées par des techniciens talentueux, escrocs mais sincères. » C'est ainsi que Guérib a déversé ses toiles et ses dessins sur le marché de l'art pendant 20 ans, sans rien signer de son nom. Par plaisir, par admiration, par orgueil, mais aussi pour l'argent et pour le jeu. Guérib, enfant bohème et fils de mère maquerelle, a pris une revanche sur la vie en connaissant la fortune et la reconnaissance. Son destin rocambolesque peut fasciner, mais surtout, il nous questionne. Marchande, affective, artistique, quelle est la valeur de l'art ?
Catch the breeze and suffered for your sanity. How you tried to set them free, they would not listen, they did not know how. Perhaps they'll listen now. Starry, starry night, flaming flowers that brightly blaze, swirling clouds in violet haze reflect in Vincent's eyes of china blue, colors changing hue, morning fields of amber grain, weathered faces lined in pain are soothed beneath the artist's loving hand. Oh, now I understand what you tried to say to me, how you suffered for your sanity, how you tried to set them free, they would not listen, they did not. Perhaps they'll listen now, for they could not love you, love you, but still your love was true. And when no hope was left inside, on that starry, starry night, you took your life as lovers often do. But I could have told you, Vincent, this world was never meant for one as beautiful as you. How you tried to set them free, they would not listen, they're not listening still. Perhaps they never will.
France Inter. Affaires sensibles, Fabrice Drouel.
Aujourd'hui, itinéraire d'un faussaire, Guérib. Notre invité, Gilles Perrault, bonjour.
Bonjour, Fabrice Drouel.
Alors, vous êtes expert en objets d'art agréés par la Cour de cassation depuis 1995 et par la Cour d'appel de Versailles depuis 1987. Vous êtes spécialisé dans le dépistage des contrefaçons, donc on est en plein dans le sujet. Et il se trouve que vous avez joué un rôle d'expert, votre rôle d'expert, pendant le procès de Guérib en 2010. Alors d'abord, expert en objets d'art, comment vous y êtes arrivé et c'est quoi la philosophie de votre métier? Et puis après on ira dans le concret, mais c'est quoi ce métier-là?
Alors, c'est pas tout à fait un métier, c'est une passion.
Une passion.
C'est-à-dire que avant d'être expert, il faut être professionnel. On n'est pas professionnel pour tous les objets d'art. On est professionnel dans un certain secteur. Et puis, on s'aperçoit qu'il y a des faux. Alors, pour faire bref, je vais vous raconter mon parcours, ça sera plus facile. C'est-à-dire que, tout d'abord, c'est l'école Boulle, c'est l'apprentissage du dessin, de la peinture, de la sculpture pendant 5 ans, avec 45 heures d'études par semaine. Ce qui était peu à l'époque, en 69, par rapport à nos aînés qui faisaient 60 heures. Aujourd'hui, je ne sais pas combien les jeunes font, mais bon, c'est une autre histoire. Donc, un certain bagage déjà, vous voyez, technique. Et puis, ensuite, 10 ans dans les musées de France, à la restauration. D'abord, un an chef d'atelier au musée du Louvre, puis sous-chef des ateliers de restauration du château de Versailles, pendant 9 ans. Pendant ce laps de temps, 9 ans, la direction du musée de France m'envoie en Italie, à l'ICROM, à Rome, à Venise, tout ça pendant 6 mois, 9 mois. Ensuite, à l'IRPA, à l'Institut Royal du Patrimoine Artistique, à Bruxelles pendant un an. Ensuite, l'IFRO à Paris. J'arrive en 84, où au lieu d'avoir un poste, puisque Versailles devait monter un laboratoire, c'est le Louvre qui monte son laboratoire à Versailles. Donc avec des confrères, je pars et j'installe mon propre laboratoire. Et puis installant mon propre laboratoire et un atelier de restauration, j'avais 18 personnes, je suis monté très très vite en tant que privé, 18 personnes, je m'aperçois, je découvre le monde privé. Et je dis bien je découvre parce que j'habitais même dans le parc du château de Versailles, allée de deux Trianon, ça ne s'invente pas. Et j'étais enfermé dans une espèce de château où je n'avais aucune connaissance de la mentalité du privé. Et là je découvre que des gens achètent à Drouot des objets qui soi-disant sont authentiques, et ces objets sont faux. Donc je dis à mes clients, je dis non, c'est faux. Et on me demande tout de suite de faire des certificats attestant que ces objets
sont faux.
Ben, je le fais, bien évidemment. J'avais quel âge ? J'avais 30 ans, 32 ans. Je le fais et malheureusement, les gens qui vendent ces objets, bien sûr, me mettent, je dirais, sur le dos les plus grands experts. Cour de cassation, cour d'appel, contre moi. C'est le début, si vous voulez, de ma passion pour l'expertise. Parce que, sûr de moi, je dis non, ces objets sont faux. Mmh. Et je commence à embêter le privé. Et le privé commence à s'intéresser un petit peu à moi. Donc, qu'est-ce que je fais ? Je m'inscris à la cour d'appel je postule pour la cour d'appel de Versailles. Et je suis pris tout de suite.
Et c'est là que vous devenez expert judiciaire. Et voilà. Vous croisez donc le procès de ce monsieur Ribes.
Bien après.
Non, d'accord. Alors, concrètement, comment vous y prenez? On va prendre un exemple. Vous avez un tableau devant vous. On vous dit, voilà, c'est un faux. Qu'est-ce que vous faites? Que vous regardez?
Alors, ce que l'on fait quand on voit un tableau, les gens vous demandent toujours, qu'est-ce que vous en pensez? Vous n'en pensez à rien. Parce que si vous commencez à avoir une idée sur le tableau quand vous le regardez, il faut savoir qu'un faux est toujours, si c'est un bon faux, il ressemble toujours à un vrai. Vous comprenez ? Donc, il faut rien penser. Il faut le regarder. Évidemment, comme disait Guy Ribes, il y a des astuces pour le faire passer ancien, des patines, des choses comme ça. Bon, faut tenir compte de tout ça, mais faut surtout n'avoir aucun avis au départ. Et tout de suite, faire ce que j'appelle le contrôle scientifique. C'est pas une expertise, la science, mais c'est un contrôle sérieux. Donc, on a des règles qui étaient établies dès 85 par les musées de France et les musées étrangers, qui ont eu beaucoup de mal à passer dans l'expertise privée, parce que vous pensez que les antiquaires, de père en fils, ne voulaient pas qu'on mette le nez dans leurs affaires. Et les faussaires, donc, pullulaient dans les années 85-90. Le temps de Guy Ribes, le temps où Guy Ribes marchait très bien.
Est-ce que, je vais vous poser une question un peu provocatrice, est-ce que un faussaire est un artiste? Est-ce que c'est un art que de savoir reproduire et faire semblant?
Alors, est-ce que c'est un art de bien mentir? Parce qu'en fin de compte, faux? C'est un mensonge qui passe. Et c'est du théâtre, quelque part. C'est du théâtre. Donc, le faussaire, il y a comme partout, il y a les bons, les moyens et les mauvais. Et puisqu'on parle de Guy Ribes, Guy Ribes a été très bon, il a été moyen, et parfois, je suis sûr qu'il l'admettrait lui-même, il n'a pas été bon.
Et quand il a été très bon, qu'est-ce qu'il avait de plus que les autres? Qu'est-ce qui faisait que un faux pouvait passer à l'as, entre les gouttes, dès lors qu'il était fait, et non pas signé, mais fait par Guy Ribes?
Alors, il pouvait être très bon quand on ne faisait pas encore de contrôle scientifique. C'est d'ailleurs dans les années 75, 80, 90, jusqu'à dans les années 2000, le marché de l'art refusait le contrôle scientifique. Les grands marchands refusaient le contrôle scientifique. Je me suis heurté, vous pourrez lire dans mes écrits, j'ai écrit déjà depuis 87, que le contrôle scientifique était nécessaire à l'expertise. Aujourd'hui, ce n'est pas nécessaire, c'est obligatoire. Et aujourd'hui, on estime que si un expert n'a pas pris le soin de faire un contrôle scientifique approprié par rapport à son expertise, eh bien, c'est lui qui est responsable si l'objet est faux.
C'est quoi une expertise scientifique?
Alors, une expertise scientifique, par exemple, pour une terre cuite chinoise, le minimum, c'est la thermoluminescence qui va vous donner la datation de la terre cuite. Mais ce n'est pas tout. Parce que les faussaires chinois savent prendre des terres cuites anciennes, les réduire en poudre et vous refaire une terre cuite. Voilà. Alors là, il faut faire après un scanner. Mais bon, c'est encore une autre histoire. Mais si vous voulez, c'est toujours la course entre l'expertise, le contrôle scientifique et le faussaire. Et moi, je détermine. Guy Ribes, c'est un faussaire de l'ancienne école. C'est-à-dire quand on n'avait pas encore de contrôle scientifique. Maintenant, ça ne passe plus.
Ça ne passerait plus, ce qu'il a fait. Il ne pourrait pas faire cette carrière-là aujourd'hui.
C'est-à-dire qu'il pourrait la faire s'il est entouré que des greffins qui montent des scénarios, comme vous avez vu, ou des qui font que, bien sûr, il y a une domiciliation, on va chez quelqu'un, chez des petits vieux qui, des retraités qui ont besoin d'argent, et les gens se font avoir et achètent comme ça, et puis, si possible, comme ça se faisait beaucoup autrefois, avec des commerçants qui avaient des espèces, et personne ne porte plainte, vous comprenez?
Oui.
Aujourd'hui, tout ça, ça c'est terminé.
Alors, est-ce qu'il est l'un des seuls à utiliser cette technique qui consiste à compiler plusieurs œuvres préexistantes, c'est-à-dire prendre des éléments d'un tableau, on va prendre Picasso, on va prendre cet exemple-là, il prend un bout de Picasso,
et un autre bout d'un autre tableau de Picasso pour garder le style. Absolument. Ça, c'est une pratique extrêmement courante des faussaires, de tous les faussaires, de faire un pastiche, c'est-à-dire de prendre un, deux, trois tableaux, de faire un mélange, ce qui fait que l'œil averti voit tout de suite un Picasso, un Vermeer ou un Modigliani, tout de suite. Voilà. Et ça, on commence à basculer et on pense que l'objet est bon parce qu'on se dit, mais c'est un Modigliani.
On va parler du procès en 2010, puisque vous en avez été l'un des acteurs. On va écouter une archive d'abord qui répond, ou qui tente de répondre à cette question globale, quelle est la valeur de l'art? Et on va entendre ce qu'en pense le réalisateur et directeur de la photographie, Jean-Luc Léon, auteur du documentaire sur Guy Ribes, intitulé « Un vrai faussaire ».
Non, ce qui m'a plus marqué, c'est pas Guy Ribes, c'est Michel-Ange. Parce que Michel-Ange a fait des faux, et tout le monde le savait. Et ça ne prêtait pas à grandes conséquences. Il n'y a qu'un seul cardinal, c'est un peu plein, parce qu'il avait donné 200 ducats pour une fausse statue grecque. Et à l'époque, imiter, copier, c'était extrêmement bien vu. Quand un élève arrivait à faire aussi bien que le maître, on l'applaudissait. Et c'est au Moyen-Âge, il y avait des trafics de reliques. Il y a eu des imitations de tout temps. Les Romains adoraient avoir des fausses statues grecques chez eux. Il n'y en avait pas assez sur le marché de vrais, donc ils faisaient faire des fausses. Mais depuis que l'art est devenu une fausse monnaie, le faux a pris une importance capitale. Une importance qu'en Chine on connaît, mais on connaissait pas avant, mais aux États-Unis, en France, partout, maintenant, l'authentique, c'est-à-dire la signature du certificat d'authenticité, a plus de valeur que l'œuvre.
Voilà, le certificat vaut plus que l'œuvre elle-même. Ce qu'il vient de nous dire, qu'est-ce que vous en pensez?
Alors, je pense tout à fait que si une œuvre n'a pas de certificat d'authenticité ni de traçabilité, elle est invendable quand il s'agit d'une certaine somme, bien évidemment. Si on reste dans des petites sommes de 5 000, 10 000 euros, pas de problème, on peut vendre une œuvre comme ça. Mais dès que l'on dépasse 100 000, 500 000 euros ou qu'on atteint 1 million, alors non seulement il faut le certificat, la traçabilité, l'analyse scientifique, mais aussi un facteur tout à fait récent, l'avocat.
Pourquoi vous me dites un facteur tout à fait récent?
Parce que j'ai noté que depuis 2010, vu toutes les affaires de faux, les grands collectionneurs, surtout les Américains, n'achètent plus rien sans leur avocat. Et font des contrats incroyables, garantissant que si l'œuvre est déclarée fausse ultérieurement, l'acheteur, le vendeur doit tout rembourser. Enfin, maintenant, il y a un nouveau facteur dans la vente des objets d'art, c'est l'avocat ou l'avocat des grandes sociétés de vente. When winter comes and food is scarce, we'll want our toes to stay indoors. When summer's gone, we'll fly away and find the sun. When winter comes, must fix the fence by the acre plot. Two young foxes have been nosing around. The lambs and the chickens won't feel safe until it's done. I must dig a drain by the carrot patch. The whole crop spoils if it gets too damp. And where will we be with an empty store when winter comes? When winter comes and food is scarce, we'll want our toes to stay indoors. When summer's gone, we'll fly. Comes. I must find the time to plant some trees in the meadow where the river flows. In time to come, they'll make good shade for some poor soul. When winter comes and food is scarce,
comes and find the sun when winter comes.
Alors, on va consacrer les 4 minutes qui nous restent à parler du procès en 2010 de Guy Ribes. Alors, quel souvenir vous en gardez? Alors, je sais qu'il y a beaucoup de choses, et vous étiez expert, donc vraiment, vous étiez un élément important du procès. Qu'est-ce qui vous a frappé dans ce procès? S'il devait rester un souvenir?
Moi, je dirais le côté bon ton du procès. C'était pas un procès comme j'ai assisté à d'autres procès de faussaires, où c'était des menaces et tout ça. Guy Ribes avait tout avoué. Guy Ribes était satisfait de son procès. C'était son théâtre, un peu. Donc, vous voyez, l'ambiance était bonne.
Ouais.
C'était une bonne ambiance. Il avait avoué, les tableaux étaient là, tout ça, ça allait s'arrêter.
Et puis, c'était son heure de gloire aussi.
C'était son heure de gloire, tout
à fait. On le reconnaissait, il était reconnu. Alors, voilà. Certes comme un faussaire, mais comme un artiste.
Voilà, alors quelque part comme un artiste...
Quelqu'un qui savait peindre,
quand même. Oui, bah, comme, mais bien sûr, dire. Puisque j'ai dit à la barre que si Picasso était encore vivant, il aurait pu l'embaucher. Parce que la présidente me demandait, mais que pensez-vous de la qualité de son travail? J'ai écouté, si Picasso était là, il aurait pu l'embaucher, parce que c'était un procès bon enfant. Mais quand même, je tiens à vous rassurer, quand même, aujourd'hui, on reconnaît tout de même les faux Guy Ribes. Les derniers sont facilement reconnaissables, parce que, justement, il allait trop vite. Il l'a dit, d'ailleurs. Il allait beaucoup trop vite. Le problème, c'est sur les premiers qui ont été authentifiés, effectivement, par les experts compétents et qui faisaient autorité.
Alors, on va faire entrer l'auditeur dans l'intimité d'un rapport d'expert pour la justice. Alors, ça dit notamment cela. Celui-là est daté du 30 janvier 2006, donc préparation du procès avant 2010. Alors, vous dites, après avoir pris connaissance du dossier de procédure, examiné personnellement et procédé à toute analyse utile sur les scellés, mes conclusions sont les suivantes. Les scellés numéros T3 et T4 sont des œuvres de plus de 70 ans qui n'ont pas été contrefaites. Le scellé T5 est également une œuvre ancienne, mais modifiée par l'apposition d'une fausse signature. Alors on arrive au scellé T1, T2, T3, il y en a beaucoup, hein, ça reste qu'à 21. Et là vous dites, ces scellés sont des faux. Ils sont réalisés soit de la même manière, à partir d'une photo en noir et blanc, reproduction d'une œuvre dont l'encre d'impression est plus ou moins nettoyée, le tout surchargé au fusain pour les œuvres de Renoir, scellé T1, T2, etc., avec des pigments, encre, crayon, pastel et de l'encre de Chine pour les œuvres de Picasso, et puis avec des techniques différentes et individualisées pour chaque œuvre, comme pour Chagall, Vlaminck et Bram van Velde. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus, cette littérature judiciaire aussi, d'expertise,
hein? Oui, alors il faut qu'elle soit d'abord très technique pour être bien compréhensible, bien sûr avec des photographies, des examens. Nous faisons toutes sortes d'examens d'ailleurs, hein, ça dépend de la matière et du support. Et ce qu'il faut, c'est mettre en évidence la vérité technique. Mmh. C'est-à-dire, avant tout, savoir, parce que par exemple, Guy Ribes allait un peu vite à la fin, et quand il faisait des faux Renoir, il déchirait des pages de livres et les crayonnait. Bon, les mettait sous un encadrement, et tant que l'encadrement, bien sûr, n'était pas démonté, les gens pouvaient pas s'en apercevoir. Mmh. Mais bon, on a même l'encadrement un peu démonté, on met en lumière transparente, et on s'aperçoit qu'il y a un texte derrière, et que c'est pas possible.
Ce sera le dernier mot, le mot de la fin. Gilles Perrault, merci infiniment de nous avoir apporté vos éclairages d'expert. C'est que de le dire. Merci.
Mais de rien. Merci à vous aussi. Au revoir.
C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, le faussaire Guy Ribes, une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr. Rendez-vous également sur la page Facebook d'Affaires Sensibles. Merci à toute l'équipe qui a préparé ces Affaires Sensibles pendant toute cette semaine. Rédaction et recherche documentaire, Jean Bulot, Jeanne Maillère et Adrien Cara. Attaché de production, Valérie Priolet. Coordination, Christophe Barrère. Programmation musicale, Muriel Pérez. Réalisation, Fabrice Lègle. À la technique aujourd'hui, Arnaud Caillet.